With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 301 du podcast Touchdown Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison NFL. À mes côtés pour la première preview de l'année, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
Camille Sarabène à la technique pour une 9e année. Bonjour Camille.
Salut.
9e saison donc pour le podcast, 13e pour le site et notre partenaire cette année encore pour les émissions de preview de ce... Notre partenaire cette année encore pour les émissions preview chaque semaine, c'est ça que je voulais dire. C'est donc Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Cette année encore, on a prévu plein de choses. Vous aurez évidemment les meilleures cotes à la fin de chaque émission. Et puis, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux où vous avez des bons plans le lundi, le jeudi, le dimanche, les marqueurs de touchdown. Et il y aura un nouveau jeu dans le fauteuil cette année, je vous le dis dès maintenant, avec des plus grosses cagnottes.
Oh.
Et oui, il y aura des plus grosses cagnottes encore. Donc, merci à Unibet de nous soutenir une année supplémentaires et donc n'hésitez pas à y aller, les liens sont sur le site et sur les réseaux sociaux. Grégory, le principe des émissions preview reste le même, tu le connais, l'affiche de la semaine, les pronostics et évidemment les meilleures cotes de la semaine. Nous sommes prêts au décollage pour la saison NFL 2019, c'est parti. Deux équipes de prestige, le champion en titre évidemment les Patriots et deux équipes qui sont les plus titrées de l'histoire de la NFL avec 6 couronnes chacune, ce sont les Steelers et les Patriots. Deux équipes qui entament la saison en espérant donc devenir l'équipe la plus titrée de la NFL, deux équipes très complètes, deux équipes avec beaucoup de très bons joueurs. Grégory, les Patriots semblent avoir l'effectif le plus complet mais il va falloir rester très attentif, notamment face à une bonne défense menée par TJ Watt, Cameron Hayward, Stephon Tuitt, Joe Hayden et le rookie Devin Bush. Est-ce que cette défense de Pittsburgh peut bousculer New England pour sa rentrée en matière? On sait que les Patriots parfois ont besoin d'un petit peu de rodage, ils jouent surtout pour le mois de janvier.
Bah, tu as dit pas mal de choses, mine de rien. C'est vrai que cette équipe des Patriots, ça reste globalement complète. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en attaque, il y a quand même pas mal d'ajustements à faire. Alors, on sait que le backfield offensif va rester le même, avec notamment le trio Sonny Mitchell, James White et le rookie Damien Harris, qui devrait piquer quelques snaps à Rex Burkhead, notamment sur les short yardage. Après, il y a plus d'interrogations sur les cibles. Les receveurs, on sait également que leur rookie, leur premier tour de la dernière draft, dès qu'il arrive, finalement, s'est blessé au dernier moment.
Petite surprise, oui, un peu finalement.
Voilà, donc il va falloir réajuster un petit peu le tir pour trouver un bon numéro 2 avec Julian Edelman, en compagnie de Julian Edelman. Bon,
après, Josh Gordon, c'est potentiel, mais on ne sait pas où il en est aujourd'hui.
Ça fait partie de ses interrogations, en effet.
Et Demaryius Thomas a fait une bonne fin de pré-saison, il a été coupé, il a été repris.
C'est donc, ça. Interrogation au poste de tight end, forcément pour savoir qui va prendre la relève de Rob Gronkowski.
Alors, voilà, là c'est peut-être le gros point. On a Matt Lacoste, pas Lacrosse, et Ryan Izzo qui sont aujourd'hui les deux premiers sur la depth chart. Donc ça fait pas lourd. Très très peu lourd.
On est d'accord. Je pense que ça coïncide surtout. Enfin, ça indique, on dira en amont, que le jeu va sans doute être un peu écarté également côté Patriots, qu'on va avant tout jouer sur la vitesse avant de jouer. un peu sur le côté, voilà, le fait de vouloir absolument trouver les tight ends comme c'était le cas ces derniers mois, puisque en l'occurrence les ISO sont plutôt des profils de bloqueurs. Et puis il y a la ligne offensive également pour terminer sur ces quelques interrogations. Alors certes le coach Skarnecchia est toujours là, mais il y a bien entendu Trent Brown qui va falloir remplacer, par Isaiah Wynn qui revient d'une année blanche pour cause de blessure. On a eu les soucis de santé également de David Andrews il y a quelques jours de ça au poste de centre, donc il faut voir si Russell Bodine, qui arrive de Cincinnati, va réussir à vraiment bien s'intégrer. Malgré tout, ça fait pour réussir à protéger efficacement Tom Brady, pour réussir à ouvrir les brèches à ce jeu au sol hyper sollicité depuis l'année passée, ça fait quand même quelques points à améliorer contre tu citais quelques joueurs, des Cameron Hayward, des Javon Hargrave notamment sur la ligne défensive, et puis bien entendu TJ Watt ou Devin Bush sur le deuxième rideau.
Elle est quand même plutôt complète à tous les niveaux, cette défense de Pittsburgh.
Oui.
Il n'y a pas d'énormes points faibles.
Non, mais comme souvent, j'ai envie de te dire, l'année dernière, le gros souci, c'était aussi le coaching, parce que déjà, la défense était assez complète. Après, il y a des petits points d'interrogation sur les postes d'inside linebacker et de safety, peut-être un peu plus de consistance, de sérieux, de motivation du début à la fin à trouver. Et puis également savoir si Keith Butler s'est remis en question efficacement, lui qui était extrêmement critiqué l'année dernière, notamment sur les troisièmes tentatives avec des schémas un petit peu farfelus. Contre les Patriots, c'est Josh McDaniel, généralement ce genre de choses, ça pardonne pas.
Alors en un mot, est-ce que c'est important, toutes les questions sur les cibles des Patriots, quand finalement on peut peut-être se dire que le point focal de l'attaque, ce sera finalement le jeu au sol? Tu l'as dit, il y a Sonny Mitchell, il y a James White, il y a Damien Harris, il y a Rex Burkhead, il y a James Devlin, il y a Brandon Bolden, aujourd'hui il y a tout ça dans l'effectif au moment où on parle. Donc ça va matraquer au sol.
Il y a de fortes chances.
Du côté de New England, c'est ça, évidemment, il n'y a pas le star power, Tom Brady, etc. Mais aujourd'hui, le point focal, c'est le jeu au sol. Donc est-ce que ça ne mitige pas un peu les problèmes de cible?
Moi, c'est pour ça que j'insisterai vraiment sur la question du coaching du côté de Pittsburgh. Parce qu'en effet, je pense malgré tout, commençant un petit peu à connaître McDaniels et les Patriots, je pense qu'on va essayer de les amener justement sur le jeu au sol. Et qu'après, on va rester sur ce jeu un petit peu en screen, ce jeu un petit peu plus écarté, sur de la prise de vitesse et de la prise d'espace grâce au bloc. Et il y a des receveurs qui font pas milliards par saison, mais qui en tout cas sont capables d'aller au charbon pour permettre justement aux joueurs derrière eux d'engranger les yards. Donc c'est là-dessus où je pense va quand même falloir être focus et on va dire, rester concentré sur différents aspects du jeu parce que encore une fois ça peut être problématique. Je me rappelle d'un Pat Steelers, alors je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais où là aussi on s'attendait vraiment à un gros duel et où le backfield défensif des Steelers notamment avait pris l'eau à cause de ça, donc à surveiller.
De l'autre côté, l'opposition attaque des Steelers, défense des Patriots, manque pas d'intrigue non plus. Là aussi, ça va être très intéressant. On est dans l'après. L'après Antonio Brown d'un côté, l'après Trey Flowers de l'autre. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout les mêmes choses. On a une défense des Patriots qui, quand même, a longtemps travaillé dans la continuité. Il y a un cerveau défensif à la tête de l'équipe, donc ça peut être vu comme ça. Et l'après Antonio Brown, finalement, Ben Roethlisberger sort de sa première saison à 5 milliards en carrière. Au cours de sa carrière, il a perdu Hainsworth, il a perdu Santonio Holmes. Est-ce que finalement, on devrait s'inquiéter et pourquoi il aurait plus de mal à se relever de la perte d'Antonio Brown que des précédentes? Même si Antonio Brown est à un niveau au-dessus de ses joueurs, des joueurs cités, hein, on est d'accord.
Oui, après, là, pour le coup, de ce qu'on a vu de Juju Smith-Schuster, qui était, sauf erreur de ma part, le receveur le plus productif des Steelers de l'année passée, la question, c'est de savoir s'ils vont avoir un numéro 2 suffisamment efficace pour avoir regardé leur escouade. Il y a Dante Moncrief qui a fait des bons passages à Indianapolis et Jacksonville avec à peu près, il a déjà fait des saisons à 600, 700 yards, donc ça peut faire l'affaire dans l'attaque des Steelers et avec le jeu, avec le jeu profond qu'affectionne tout particulièrement Roethlisberger. Après, il y a d'autres joueurs, Diontae Johnson, le rookie également, qui sera surveillé de près. Il y a des cibles quand même, James Washington également.
James Washington a fait une bonne pré-saison.
Exactement, et qui lui aussi, en termes de menaces aériennes sur le jeu profond, va pas faire tâche. Donc non, malgré tout, il y aura quand même pas mal de cibles à surveiller. Je m'inquiète pas tant que ça par rapport à l'absence d'Antonio Brown. Après, il y a quand même des clients, mine de rien, pour les contrecarrer, parce que certes Patrick Chung, leur safety, sera absent, mais en l'occurrence, il y a quand même un backfield assez fourni entre les Gilmore, les McCourty, Jesse Jackson qui va prendre une année en plus, Jedwan Williams, leur deuxième tour de draft, qui sera sans doute sollicité, je pense, dans cette rencontre. Donc non, ça fait quand même, mine de rien, quelques petites interrogations également à surveiller. J'ai pas cité Doran Harmon qui a fait l'interception de la victoire, notamment il y a deux ans, j'ai toujours un doute. L'interception de la victoire à Pittsburgh.
À Pittsburgh, pardon, oui. New England était 21e sur les points encaissés l'an dernier, sur les yards encaissés, 7e sur les points encaissés. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à ce genre de philosophie de défense qui plie mais qui rompt pas?
Ah, c'est compliqué à dire parce que l'année dernière, on a vraiment vu, à mon sens en tout cas, une défense à deux visages avec un début de saison où vraiment la défense n'était pas trop dans le coup, notamment sur le jeu au sol, où ça va être un point à surveiller. Et c'est surtout en déplacement où on sentait cette petite fébrilité mine de rien. Donc on va voir très clairement si tout ça est oublié. Sachant que Belichick reprend la main, alors on ne sait jamais s'il la cède totalement non plus, hein, parce que ce soit avec Matt Patricia ou Brian Flores, j'ai pas dans l'idée qu'ils faisaient tout de leur côté sans que Bill Belichick soit au courant. Mais en tout cas, oui, ça va être. On va voir s'ils vont vraiment poursuivre dans cette lancée-là, ou si on va recommencer à retomber dans des petits altermoiements. Si tu me permets, je sais pas si tu allais en parler, mais une clé fondamentalement, ça va être la ligne offensive des Steelers, qui a quand même perdu Mike Munchak en tant que coach. Mmh. Donc, il y a quand même quelques petits ajustements à surveiller. Ils ont perdu leur tackle droit également, Marcus Gilbert. Et puis, de l'autre côté, une défense des Pats, tu le disais, qui perd Trey Flowers, qui va récupérer quand même un petit peu de menace sur le pass rush avec le retour de Jamie Collins.
Et il y a Michael Bennett hein, aussi. Donc
et il y a
pas
Michael Bennett, bien entendu, qui est très expérimenté et qui a un volume de jeu assez conséquent malgré son âge avançant. Mmh. Donc, ça peut être quelque chose à surveiller parce que c'est deux points où on ne sait pas trop où en sont les deux escouades. Et là, pour le coup, je pense que l'escouade qui prendra le dessus sur l'autre, ça peut avoir clairement une indication sur le vainqueur final.
Ça va être quand même très, très intéressant. Je vais te demander ton pronostic. Et honnêtement, je ne trouve pas ça si évident que ça. Surtout quand on sait, en général, encore une fois, ce n'est pas pour remettre en cause New England sur le long terme de la saison, mais des fois, au début de l'année, ils en lâchent un ou deux et c'est le moment où on les enterre. Cette année, je préfère prévoir qu'ils vont en lâcher un ou deux et ne pas les enterrer. Tu vois donc, je trouve qu'il est difficile à pronostiquer. Je vais prendre les Patriots parce que c'est leur match d'ouverture et que c'est le champion en titre. Ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs contre Pittsburgh. Par contre, ils ont perdu le dernier, c'était au mois de décembre dernier, 17-10.
Bah écoute, on va sans doute me trouver lourd là-dessus, mais j'ai quand même la sensation sur les derniers Patriots Steelers que Tomlin perdait un petit peu le fil, j'ai la sensation, et je pense que ça peut être au détriment des Steelers de nouveau, avec une victoire d'une courte tête de la part de New England.
Patriots, le premier pronostic de la saison est tombé.
Et très original.
T'as vu un peu ? Et il est original. Les autres pronostics, c'est maintenant. C'est parti pour la semaine 1 de NFL. C'est donc parti pour les pronostics. Grégory, on rappelle, je ne sais pas si on fera les gages un jour. Hein, je ne rappelle pas les scores.
Non, non plus, je ne sais
Raoul a perdu l'an dernier ? Ou c'était moi ? C'est moi.
C'était
l'année d'avant. Raoul.
L'année d'avant.
Mais on a tous les deux un gage de retard. Bon,
c'est ça.
Faut qu'on définisse si on en fait encore parce que pour l'instant on les fait pas. En tout cas, dans l'émission, on donne nos pronostics et vous retrouverez ensuite sur le site les pronostics de tous les autres de l'équipe. Ils sont publiés quand les pronostics le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou. Oui, c'est ça. C'est le samedi matin.
Samedi ou dimanche.
C'est le samedi matin.
Tu connais mieux que moi.
Donc, Grégory, on commence avec le match qui a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Il oppose les Bears aux Packers. Cette équipe commence la saison avec un nouveau coach, dont Matt LaFleur, coach des Packers. Gros test pour son attaque face à la défense des Bears. Est-ce qu'on va vite être fixé sur le niveau de ces Packers new look avec un Aaron Rodgers qui est enfin un coach offensif qui est censé lui plaire?
Très clairement. En tout cas, je ne suis pas sûr que sur ce match-là, alors c'est bien parce que du coup, il y en a beaucoup qui vont le voir après coup, mais je ne suis pas sûr que ce soit un match où ça va se terminer à milliards en cumulé.
Non.
Parce que la défense de Chicago, oui, en effet, va sans doute repartir sur des bonnes bases. Et la défense de Green Bay a quand même un peu plus de repères que cette attaque.
Ça va être un test pour Trubisky aussi.
Exactement. J'essaie de... Je suis quand même un peu partagé. On a vu que Chicago, offensivement, montait un petit peu en régime. S'appuyait beaucoup sur le jeu au sol l'année dernière, mine de rien. Et il va falloir trouver le remplaçant de Jordan Howard. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était placé en rookie David Montgomery pour épauler efficacement Tarik Cohen. Après, du côté de Green Bay, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'on avait la sensation que cette défense était performante l'année dernière. Il va falloir quand même trouver les playmakers durablement capables de punir, en l'occurrence, Trubisky, s'il vient à se planter. Mais je pense que du côté de Green Bay, on va quand même voir quelques petites choses, notamment un meilleur Aaron Rodgers, ce qui n'est pas compliqué par rapport à l'année passée.
Alors,
mais je suis confiant aussi pour Chicago et c'est pour ça que je mise sur les Bears. Je vois quand même un match assez solide de Trubisky. Je l'ai dit, ça ne va pas être une grosse envolée, mais un bon match à 250 yards, un TD, je pense que ça suffira.
Eh ben, je vais dire les Packers. C'est le premier pronostic discordant de la saison. On a eu la discussion hors antenne juste avant. Je vais me mouiller, je vais le dire tout de suite. Les Bears, pour moi, seront les Jaguars de cette saison.
Ouais.
Leur défense a sur-méga performé l'année d'avant.
Ah, s'ils ont autant de blessures que Jacksonville l'année dernière, c'est possible.
Ça baisse un peu. Trubisky, peut-être pas forcément au niveau.
Okay.
Et ça fait pas de play-off. Voilà, je le dis. Très bien. Je l'ai déjà dit dans l'émission preview. Packers, la première pour Rodgers. Dimanche 8 septembre, 19h, la Hype Brands commencera à domicile contre les Titans. Ce sera dès 19h, grosse curiosité de cette saison en termes de puissance de feu et de playmaker. Il n'y a pas photo entre ces deux équipes sur le papier, non? Sur le papier.
C'est toujours pareil.
Ça prenne forme, il y a un nouveau coach et tout ça. Mais sur le papier.
Sur le papier, Cleveland est favori. Après, la principale interrogation, c'est forcément de réussir à dominer cette équipe, cette défense des Titans. C'était leur point fort l'année dernière, avec notamment Derrick Henry qui est monté en régime offensivement. Voilà, faudra quand même faire attention parce que c'est une équipe qui est capable de punir justement les erreurs adverses, en tout cas qui était capable de le faire. Donc à surveiller quand même, mais j'y vais quand même avec Cleveland parce que défensivement ils ont progressé. Il me semble que Taylor Lewan n'est pas là puisqu'il est suspendu. Donc ça va quand même être un petit problème pour contenir efficacement notamment Miles Garrett. Donc j'y vais quand même avec Cleveland sur ce match-là.
Cleveland pour moi aussi. Dolphins Ravens, je pense que je vais poser la question toutes les semaines, quelle que soit la personne en face de moi. Comment les Dolphins peuvent gagner?
Avec une bonne défense. Alors, parce que en l'occurrence, l'attaque de Miami contre la défense de Baltimore, je suis pas méga optimiste. Mais
alors, en plus, Baltimore, a priori, là, je pense qu'on peut s'attendre à un côté rouleau compresseur au sol. Alors, même s'il y a un nouveau receveur, c'est Marquise Brown, hein, que je confonds de des rookies. Celui des Cardinals, le rookie receveur.
Il s'appelle pas Brown.
Non, je sais pas pourquoi je confonds le mec qui a été
drafté. Il y a eu Butler, il y a eu Isabella.
Non, il y a pas celui qui était drafté avec Kyler Murray. Bon, bref. En tout cas, Marquise Brown, Hollywood Brown, c'est ça.
Ouais.
Donc il y a lui, mais je vois surtout Mark Ingram et l'arrivée de Mark Ingram et Lamar Jackson. Donc ça va rouleau compressé a priori au sol. Alors je te donne la stat qui fait plaisir. Miami a gagné 5 de ses 6 derniers matchs d'ouverture.
Ça m'a
surpris.
Voir qui ils ont affronté aussi.
Voilà, je pense pas qu'ils gagneront celui-là, donc je vais mettre une pièce sur les Ravens parce que je vois pas trop, même si je crois pas en Lamar Jackson non plus d'ailleurs. Mais...
Même si je pense que le run stop de Miami sera meilleur que le pass rush cette année, mais oui, en l'occurrence, je pense que ça devrait suffire quand même pour Baltimore. Je suis pas sûr qu'ils mettront, je sais plus combien ils avaient mis l'année dernière, 55-7 ou je sais plus quel score à Buffalo en ouverture. Mais bon, je pense que c'est un match où ils peuvent s'imposer au moins avec un ou deux TD d'avance facile.
Disons que bazarder ton left tackle titulaire avant d'affronter les Ravens, c'est
pas la meilleure
idée. C'est rarement une bonne idée. Ravens pour tout le monde. Vikings, Falcons, deux outsiders de la NFC qui se rencontrent déjà. Est-ce que pour les deux, l'enjeu est de rassurer sur la ligne offensive?
Très clairement. J'ai parlé un petit peu d'Atlanta, notamment lors de la 300e avec de meilleurs choix. Je suis quand même assez optimiste concernant l'attaque de Minnesota. Pas spécialement sur le poste de running back, parce que je pense qu'il faut quand même en attendre un petit peu plus de Dalvin Cook. Par contre, la ligne offensive a été sérieusement considérée et faut pas sous-estimer également l'arrivée d'un coach comme Gary Kubiak dans l'organigramme, qui, je pense, va rebooster un petit peu tout ça et permettre à cette attaque de Minnesota d'être encore plus explosif, notamment sur le jeu au sol. On sait que c'était une de ses spécialités à Houston notamment. Donc c'est ce qui fait que je suis tout aussi optimiste pour Minnesota, en tout cas plus optimiste pour Minnesota que pour Atlanta en l'occurrence.
Dalvin Cook, s'il est enfin un coureur numéro 1, tu disais il y a de l'optimisme pour Minnesota, il serait temps pour Dalvin Cook.
C'est quoi, c'est sa troisième année du côté des Vikings, en tout cas. Là en tout cas il sera pleinement titulaire, appelé à être le numéro 1 de cette escouade. Donc là, va clairement falloir prouver pour un ancien deuxième tour de draft. Et le run stop d'Atlanta sera quand même pas sous-estimé. Il n'y a pas d'énormes playmakers. Enfin, il y a bien entendu Jarrett et Jones qui ne sont pas à prendre à la légère.
Oui.
Mais pour une escouade où on était un petit peu inquiet sur le poste de defensive tackle et de linebacker, ça a l'air quand même de tenir un petit peu la route. Donc ce ne sera peut-être pas forcément aussi facile que ça pour Dalvin Cook.
Le pronostic ?
Minnesota. Je ne parie jamais sur Atlanta par superstition, mais honnêtement, au-delà de la superstition, je pense que ça va quand même être assez difficile contre une grosse défense comme celle des Ravens.
Moi, je mets les Falcons quand même parce que je crois en Matt Ryan, que j'ai mis haut dans mon power ranking des quarterbacks d'ailleurs, parce qu'on m'a souvent reproché de le mettre bas. Je crois en Julio Jones, je crois en cette attaque, et Dan Quinn a pris les commandes de la défense. pourquoi pas mettre un peu le fouillis dans la, sur cette ligne offensive, pourquoi pas perturber Kirk Cousins. Je prends Atlanta pour la victoire à l'extérieur. C'est pas cadeau, mais c'est faisable. Falcons. Jets, Bills, deux quarterbacks de deuxième année, deux équipes qui poursuivent leur reconstruction et nos deux hype face à face. Duel de hype. Ouais. Alors, on parlait de Sol, Frank Gore ou Devin Singletary pour bon, les Bills.
Frank Gore dans un premier temps. Je pense que Singletary, ils vont pas le lancer tout de suite à plein temps, mais Frank Gore, ça devrait être sympa quand même.
Donc, tu paries sur les Bills parce que c'est ta hype.
Alors, je parie sur les Bills parce que c'est. Alors, je ne parie pas sur les Bills parce que une saison NFL, c'est long et que je pense que ça reste une équipe relativement jeune et qui va monter en régime petit à petit. Ça reste un match de division où je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mmh. Pas sous-estimer la ligne défensive des Jets qui, je pense, va quand même faire bosser un petit peu cette O-line de Buffalo qui est en transition selon moi. Donc, il y aura pas beaucoup de points. Je pense que c'est un match très défensif.
Oui.
Et je pense qu'à ce jeu-là, à domicile, les Jets peuvent avoir le dessus, mais ça n'annule en rien le fait que je vois Buffalo bien figurer, en tout cas être, ne pas être très loin des playoffs à la fin de la saison.
Moi, je vous préviens, accrochez-vous, dimanche, c'est le début du show, le Von Bell. Ça va être une grande saison.
Oh, s'il fait 25 yards.
Quinnen Williams va aplatir Josh Allen sur une de ses courses.
Sans doute.
Puisqu'il s'est à peine lancé. Donc, de toute façon, à un moment, il aura le ballon en main trop longtemps et Quinnen Williams va l'aplatir. Donc, j'annonce victoire des Jets, évidemment. Et je l'ai dit, play-off. Donc,
ah, bah là, oui.
Je suis chaud.
Toi, par contre, tu ne peux pas te permettre de lâcher un match ici ou là.
S'ils sont en play-off, les Jets, j'anime la preview des play-offs avec un maillot des Jets et je l'offre après. Je suis comme ça.
D'accord.
Et pareil avec les Bills s'ils sont en play-off.
Ah, ok.
Je
tiens. Fair play. D'accord.
Je tiens. Eagles, donc Bills, Jets.
Non, Jets pour
tu
moi.
Tu prends les Jets.
Je prends les Jets. Je te l'ai dit, ça ne considère en rien la fin de saison.
Eagles, Redskins, une des équipes favorites de la saison, les Eagles. Des Redskins difficiles à cerner. Trent Williams, pour l'instant, est absent au moment où on enregistre. Mm-hmm. Ça risque d'être difficile pour Keskinum s'il n'est pas là. Face à une équipe de Philadelphie qui, pour le coup, elle a des armes à Fletcher Cox, a beaucoup de choses.
C'est ça.
Ça semble très compliqué avec Keskinum sans left tackle.
C'est un peu ça. Il y a pas mal de petites blessures hein, au niveau de la défense des Eagles. Manque de bol pour les Redskins. Là où ils sont principalement touchés, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est le poste de corner. Mmh. Et le principal point faible offensivement de Washington, c'est les receveurs. Donc je ne suis pas sûr qu'ils pourront pleinement l'exploiter. Et tu l'as dit, c'est vrai que cette absence de Trent Williams sur le pass pro, ça peut être quelque chose de compliqué contre une équipe de Philadelphie qui peut mettre la pression.
Et alors moi, je fais partie des optimistes pour Washington. C'est dommage, évidemment, c'est un énorme problème, left tackle et quarterback. Mais sinon, il y a Darius Guys, dans lequel ils ont l'air de croire, qui est là. Mm-hmm. Il y a malheureusement peu de cibles. Mais en défense, il y a quelques joueurs intéressants. Il y a London Collins qui est arrivé, donc ils vont être embêtants.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sur certains matchs, je pense qu'il y a trop en face, donc je prends Eagles. Mais
ah oui, mais moi, c'est la même logique que pour Buffalo pour moi. Moi, je les vois perdre ce match-là, mais je les vois bien revenir sur le reste sur la suite de la saison.
Eagles pour tout le monde alors. Eagles. De toute façon, la carte pour Washington, ça va être physique, ça va être guys plus défense.
Ah bah
quoi.
Ça, bah c'est ce qui marche pour eux depuis quelques mois. Donc.
Panthers, Rams, gueule de bois post Super Bowl ou pas pour les Rams? Alors l'info qui est tombée depuis notre dernière émission, c'est Jared Goff, 110 millions garantis. Mmh. Est-ce que c'est un pari? Est-ce que c'est logique? On se posait la question avant l'émission, c'est surtout pourquoi si tôt, sachant qu'il y aurait une année de contrat rookie et une option.
Alors après, c'est toujours la même problématique. On sait que les salaires des quarterbacks grimpent en flèche. Alors est-ce que du côté de Lesney, le general manager, on s'est pas dit vaut mieux qu'on stoppe entre guillemets l'hémorragie tout de suite, qu'on n'attende pas quelques mois et que ça fasse encore plus exploser le compte en banque.
Je vois l'idée.
Maintenant, c'est sûr que le timing pose un peu question, surtout quand tu vois le Super Bowl qu'il a fourni. Reste encore assez jeune, mais...
Et les playoffs, hein, sur 3 matchs, c'est 1 touchdown, 2 interceptions.
Oui,
c'est sûr. En 3 matchs.
C'est sûr. Ça interroge un petit peu. Après, bon, si on a confiance, si Sean McVay dit que c'est son homme de
confiance... Est-ce que je te rajoute toute la fin de saison, après la bye week 5 matchs, 6 interceptions, 6 touchdowns.
Il y a des cycles comme ça. Il va peut-être s'en relever, mais c'est ce que je lui souhaite.
Après, moi, je ne m'exprimerai pas sur le montant, parce que comme je dis, ça monte tout le temps. De toute façon, le salary cap, il va monter aussi, etc. Bon, après, oui... Ça aurait peut-être éventuellement pu attendre, mais comme tu dis, ça peut se défendre de dire on tranche maintenant avant que ça augmente encore plus. Mmh. Pourquoi pas. Premier test pour l'épaule réparée de Cam Newton aussi, face à une grosse défense. Donc là, il va y avoir quelques mecs qui vont lui tomber dessus a priori.
Il y a de la chance que Sue soit parti derrière Rams, hein, parce que je pense qu'il aurait testé un peu. De toute façon, il le rejoue en deuxième semaine, je crois.
Voilà. Il y a DJ Moore, Curtis Samuel, Chris Hogan, Greg Olsen. Il a assez de team maintenant. C'est pas mal quand même, ça commence à être... C'est pas du premier choix.
Ah oui, je te confirme, ouais, c'est pas du premier
et
choix.
Et il y a Christian McCaffrey.
Bah alors, moi, c'est ça le truc, c'est que, encore une fois, alors Carolina, c'est un gros point d'interrogation parce que dans les tranchées, il va falloir voir ce qu'ils sont capables de donner. Après, je pense qu'ils auraient eu un running back un peu plus traditionnel. Contre le premier rideau des Rams, ça aurait pu être problématique. Le fait d'avoir Christian McCaffrey, qui justement est capable d'être assez virevoltant, on dira, sur un terrain, ça peut enquiquiner les Rams et vraiment les embêter au niveau du jeu intermédiaire, où là, je les vois quand même un poil plus en difficulté. Donc, c'est un match qui ne va pas être évident. Et pour un match de reprise post-Super Bowl, post-gueule de bois...
Il va être physique un peu, celui-là. On va se montrer un peu dans le lard. Je vais dire les Rams, mais...
Je dis les Rams également, mais je ne serais pas du tout étonné. En fait... Ce qui me freine un peu, tu l'as dit, c'est la blessure de Cam Newton et cette petite transition, notamment sur le pass rush, mais à voir.
En tout cas, ça sent la reprise piège. Donc, on crame pour tout le monde, mais on joue les points. Jaguars Chiefs, très belle opposition aussi, parce que je suis curieux de voir Patrick Mahomes et son attaque de feu, mais aussi face à cette défense des Jaguars, qui a rajouté Josh Allen, qui a l'air quand même d'être un rookie plutôt excitant, et toujours beaucoup de talent, toujours des Calais Campbell, des Jalen Ramsey. Est-ce que là aussi, ça sent un peu le piège de reprise?
Ça y ressemble très clairement. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais c'est sûr que c'est un match d'ouverture où j'en parlais un petit peu lors des previews. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures du côté de Jacksonville, sur la ligne offensive, en défense notamment. À l'inverse de Kansas City, où il y a quand même des choses qui vont devoir se mettre en place, le système 43 de Steve Spagnuolo, quelques petites blessures qu'ils ont eues sur la ligne offensive également, savoir si Tyreek Hill est revenu pleinement focus. Le backfield offensif également, puisqu'ils ont laissé partir Carlos Hyde, si vraiment on ne fait pas défaut.
Oui, mais ils ont récupéré le jeune McCoy. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Après, il faut que... Oui.
Et Damien Harris, enfin, les deux, c'est pas mal. Quand même.
Oui, Williams, tu veux dire.
Damien Williams. Ouais. Ouais, c'est pas très Harris, bien. Williams, on est en NFL, hein. Il y en a forcément quelque part.
Il y a un brand, bref. On va pas faire le débat là-dessus. Mais non, mais c'est sûr que du côté de Kansas City, la clé, ça va être de savoir qui va être en mesure de stopper Travis Kelce. Parce que je suis quand même inquiet sur ce poste de safety du côté de Jacksonville. Mais j'y vais avec les Chiefs quand même. Mais ça va être quelque chose quand même à surveiller.
J'y vais avec les Chiefs parce que, question qu'a posé Raphaël Masmejean pendant la préparation de l'émission, même si la défense garde les Chiefs à 7 points, qui marque 7 points du côté de Jacksonville?
Je le trouve
un peu dur.
Oui.
Parce qu'il y a Leonard Fournette qui est encore en bonne santé pour au moins 3 matchs.
Ouais.
Et Nick Foles, donc pour son premier match. Moi, je pense qu'il peut élever le niveau de jeu de certains.
Il n'y a pas de receveur numéro 1, mais il y a des joueurs qui peuvent justement.
Bonnes cibles,
voilà. On peut aller chercher des yards un petit peu partout. Je suis un peu plus inquiet sur le poste de tight end, mais non, franchement, je te rejoins là.
Chiefs pour tout le monde. Oui. On passe à 22h dimanche, Chargers Colts. Ça devait être un choc entre Philip Rivers et Andrew Luck. Finalement, c'est Jacoby Brissett en face. Est-ce que les Colts peuvent quand même créer la surprise, sachant qu'il y a un Russell Okung absent, qu'il y a un Derwin James absent, qu'il y a un Melvin Gordon absent? Pourquoi pas? On sait que les Chargers ne sont pas toujours l'équipe la plus régulière du monde, notamment en début de saison.
Alors, tu vois, autant j'étais pas forcément d'accord avec Raphaël sur la question de Jacksonville. Maintenant, je te retourne un peu la question du côté d'Indianapolis. Tu peux maintenir l'attaque des Chargers. Après, qui va réussir? J'ai dit que Jacoby Brissett me paraissait quand même en mesure de faire figurer correctement Indianapolis. C'est pas sur ce match-là contre cette défense des Chargers qui, en effet, malgré la blessure de Derwin James, a quand même un groupe, je trouve, assez complet en défense. À mon avis, je pense que l'attaque d'Indianapolis va un petit peu souffrir. Et s'ils arrivent enfin à avoir Bosa et Ingram titulaires en même temps dès le début de la saison, la ligne offensive d'Indy, qui était meilleure l'année dernière, elle peut quand même être amenée à être en difficulté.
Chargers.
Chargers pour moi.
Seahawks Bengals, la nouvelle équipe de Jadeveon Clowney. Et de suite, cette défense, du coup, reprend du poil de la bête. Ils vont pouvoir exploiter notamment la faiblesse des lignes de Cincinnati. Donc là, bah forcément, ça sent un peu le roussi pour les Bengals.
On en parlait, il y a quand même un timing qui est un peu différent parce qu'on a des linemen qui tombent les uns après les autres du côté de Cincinnati. Mmh. On a Seattle, alors certes, qui jouera sans Jaron Reed. Que j'ai vu quelques absents également sur le poste de defensive tackle un peu moins important, mais et puis Jadeveon Clowney qui arrive, c'est sûr que voilà, rien que sur ce match-up là, Seattle peut prendre un gros ascendant. Si on rajoute en plus le fait que Jigri n'est pas là, enfin offensivement je pense que ça va être quand même difficile. Pour moi, la principale faiblesse de Seattle, en tout cas avant l'arrivée de Clowney, c'était quand même la défense par rapport à l'attaque. Si en plus les principales cibles offensives de Cincinnati sont pas là, Ça perturbe un petit peu tout ça, et j'y vais forcément avec Seattle.
Seahawks pour tout le monde. Dimanche 8 septembre, 22h25, Cowboys Giants à Dallas. Ezekiel Elliott sera là, il a signé un gros contrat. Gros duel de coureurs. Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, c'est les deux seuls joueurs à plus de 2 milliards cumulés l'an dernier. Mm-hmm. Mais Elliott est le mieux entouré. Là, il n'y a pas photo dans tous les secteurs, a priori. Vous avez le débat si vous voulez sur quarterback. Mais après, il y a des meilleurs receveurs, il y a une meilleure ligne, il y a une meilleure défense. Donc, a priori, c'est Dallas.
Oui. Bah, là, pour le coup, j'y vais avec Dallas. Mais attention quand même, duel de division. Je pense que New York peut quand même les enquiquiner un petit peu, mais je pense, oui, en effet, que Dallas risque d'avoir le dernier mot sur ce match-là.
Cardinals Lions, numéro 1 de la draft, Kyler Murray qui joue à domicile pour sa première. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir pour ceux qui découvrent avec Cliff Kingsbury, le coach donc, qui arrive des rangs universitaires, qui a été recruté quasiment pour prendre Kyler Murray. À quoi on doit s'attendre? Décidément, je savonne beaucoup aujourd'hui.
Un jeu très écarté, un jeu très explosif, un quarterback souvent en shotgun. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense que déjà vu la petite taille de Kyler Murray, je pense que
voilà,
les 5 à 6 pas et il va rapidement voir du monde autour de lui. Mais oui, en effet, un jeu assez rythmé, sans trop de temps mort non plus, et je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui sera encore une fois assez plaisant à voir. Après, est-ce que ce sera suffisamment efficace? Cette défense de Détroit, je continue d'être un petit peu sceptique, j'attends de voir pleinement ce qu'elle peut donner, surtout qu'elle sera privée de Jared Davis. Ce qui n'est pas une petite chose, même si on a vu que la ligne défensive avait quand même été fournie ces derniers mois de la part de Quinn et Patricia. Mais là, pour le coup, beaucoup d'absence sur la ligne offensive des Cardinals, ça me fait un peu peur. Humphries et Pugh notamment, pour maîtriser le pass rush de Détroit, ça me paraît un peu compliqué. J'y vais avec les Lions sur ce match-là.
Détroit pour tout le monde. Buccaneers, 49ers, deux équipes potentiellement surprises, je suis optimiste, de la saison. Côté Tampa, on attend l'effet Bruce Arians. Côté Niners, on attend l'effet Jimmy Garoppolo. Comme l'année dernière. lequel tu préfères, l'effet Arians, l'effet Garoppolo?
On en a parlé lors des émissions previews. C'est sûr que je suis un peu plus hypé sur San Francisco. Je pense que Tampa Bay, ça prendra un peu plus de temps. Après, du côté des Niners, il y a quand même des choses qu'il va falloir surveiller. Il va leur manquer Jalen Hurd, leur receveur rookie qui était assez prometteur en pré-saison. Il va leur manquer, sauf erreur de ma part, Nick Bosa.
C'est encore jouable.
Il est incertain et il y a quand même un petit peu de casse défensivement parlant. Je crois que même George Kittle en attaque est un peu touché. Enfin, il y a plein de points d'interrogation, mais même du côté de Tampa, il y a quand même une infirmerie assez fournie et Jason Pierre-Paul notamment. Et pour mettre la pression sur Jimmy Garoppolo, ça va être un peu compliqué du coup.
Alors, de toute façon, les défenses, c'est le facteur X de ce match. C'est-à-dire qu'on a quand même deux défenses qui étaient assez mauvaises l'an dernier. On attend de voir ce qu'elles valent aujourd'hui. Le plus gros potentiel changement, c'est du côté des 49ers, puisque tu l'as dit, il y a Nick Bosa qui est incertain et il y a Dee Ford qui est arrivé quand même pendant l'intersaison.
Tout à fait.
Donc, en théorie, les 49ers doivent se renforcer un peu plus.
Pour moi,
défense.
C'est grossièrement résumé ce que je veux faire. Moi, pour moi, le gros match-up, c'est forcément Mike Evans, Richard Sherman.
Oh.
Yes. Je pense.
Yes.
Si Evans vraiment met Sherman en souffrance,
et bah,
ça peut être compliqué pour San Francisco.
Et bah, avantage Evans et Buccaneers pour moi. Je vois un effet à Ryan sur la première journée. Après, ça va partir en steak parce que c'est Jameis Winston, mais ça va nous faire une Fitzmagic de l'an dernier. Mais avec Jameis Winston, il va lancer 400 yards.
J'y vais quand même avec San Francisco de par le. Des petites lacunes, je trouve, au niveau du pass rush de Tampa Bay et le jeu à la passe global.
Le prime time, on l'a dit dans l'affiche de la semaine, c'est Patriots Steelers. On a tous les deux pris les Patriots. Dans la nuit du lundi au mardi, de Monday night pour la première journée, 1h10 du matin, donc c'est un horaire un peu atypique, hein, le premier, 1h10 du matin. Saints Texans, les Texans ont enfin un left tackle digne de ce nom. On ne reparlera pas de ce qu'ils ont lâché pour l'avoir, mais au moins ils ont Laremy Tunsil. Est-ce que ça peut les aider à créer la surprise contre les Saints qui sont quand même parmi les favoris de la saison, mais après tout, Houston a maintenant left tackle à Deshaun Watson. Bon, Carlos Hyde, c'est quand même pas la folie évidemment, mais toujours DeAndre Hopkins, toujours Keke Kuti, Will Fuller. Il y a du monde quand même maintenant dans cette attaque, et il y a toujours une défense menée par JJ Watt, même si elle a un cran en dessous de ce qu'elle a pu être. Non, bon, j'arrive pas à le vendre.
Là, t'as essayé, bravo. Non, alors je le disais, c'est sûr que généralement ces dernières années, vaut mieux essayer d'exploiter les failles de New Orleans à la passe qu'à la course, pardon. Là, en l'occurrence, l'attaque à la passe de Houston, en effet, sera meilleure. Il va falloir voir quand même hein, comment Laremy Tunsil arrive à s'intégrer dans cette ligne offensive. Il ne suffit pas de dire « Coucou les gars, je suis left tackle, ancien premier tour de draft » pour réussir à être pleinement efficace au niveau de cette escouade des Texans, surtout pour un mec qui vient d'arriver. Et contre une défense des Saints où déjà, un, il y a Cameron Jordan, et deux, il y a un Marcus Davenport dont on attend de voir ce qui va vraiment être beaucoup plus performant au cours de sa deuxième saison. Je serais curieux de voir également le duel entre Hopkins et Latimore au niveau du match-up particulier. Par contre, ouais, après, sur le reste, alors, je sais pas. Moi, je pense que défensivement, contre Drew Brees, ils vont sortir les rames bien comme il faut.
Alors, oui, mais je prends quand même un argument à surveiller. Le départ de Mark Ingram, qui n'est pas anodin au sens où on a vu que les Patriots blindent au sol autour de Tom Brady. On a vu que Drew Brees a eu quelques faiblesses en fin d'année. Ils n'ont pas reblindé vraiment à fond derrière. Alvin Kamara est un très, 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 très bon joueur, mais il se retrouve seul. Mark Ingram était un composant important de ce backfield offensif. Donc j'attends de voir aussi ce que ça va donner. Je pense que ça passe. Je vais prendre les Saints aussi. Je pense qu'ils ont plus de puissance de feu. Mais attention quand même, il y a des éléments à surveiller.
Moi, je te dirais la même logique que McCaffrey. C'était un running back traditionnel, je te dirais oui. En plus, sur le run stop, je trouve que Houston est quand même pas à prendre à la légère. Maintenant, il est tellement capable d'aller glaner les yards partout que
je suis d'accord,
il va être un poison à surveiller pour cette défense des Texans.
Quasiment. Saints et Saints.
Saints, ouais.
Et le dernier, dans la nuit de lundi à mardi, 4h20 du matin, Raiders Broncos, Antonio Brown chez les Raiders. Acte 1, enfin. Enfin, on va avoir Antonio Brown en train de jouer. Il a un casque, c'est bon, il a fait de la pub, tout le monde est content. Derek Carr.
Camille a l'air pessimiste.
Antonio Brown, il ne veut pas jouer. Camille est pessimiste. Qu'est-ce qui se passe? Il risque de se faire suspendre,
c'est
nous dit Camille,
vrai.
C'est en direct.
Bon, oh, bah, voilà.
Vous saurez ce qui s'est passé juste après. Derek
Carr. Tu ne changes pas ton pronostic?
Peut-être Brown. Josh Jacobs au sol. Alors, dans l'éventualité où Brown est là, au moment où je te parle, ça pourrait quand même donner un truc sympa si le rookie Josh Jacobs, qui vient d'Alabama, si je ne dis pas de bêtises, ça se met en place un petit peu avec John Gruden en esprit offensif, tout ça.
Alors, je vais être très franc. Autant sur le match-up attaque de Denver, défense d'Oakland, je pense que ça peut être assez équilibré.
Oui.
Parce que les Broncos ont beaucoup cherché offensivement et que la défense des Raiders cherche également à se retrouver un peu après un nombre anémique de sacs l'année passée.
C'est une belle manière de dire qu'ils sont tous les deux nuls. Hein.
Oui. Voilà.
En fait,
première semaine, je prends des gants.
Ma question était notée comme ça. Hein. Est-ce que l'attaque des Broncos est moins mauvaise que la défense des Raiders?
Voilà. Bah alors du coup je réponds en avance à ta question, je pense que ça s'équivaut un peu. Par contre, je suis très inquiet sur cette attaque d'Oakland. Alors Derek Carr, moi j'aime bien, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas j'aime bien. Je pense que le jeu au sol va mettre du temps à s'intégrer quand même. Même avec Antonio Brown, en match-up avec Chris Harris, j'aurais pas été hyper optimiste du début à la fin. Il y a quand même pas énormément de cibles, je trouve, dans le domaine aérien. Et puis premier match de la ligne offensive sous Tom Cable contre la défense des Broncos, où il va falloir gérer Bradley Chubb, Von Miller et la ligne défensive, notamment dans le sillage, on dira, de Vic Fangio, qui est un spécialiste offensif et qui, je pense, va blinder notamment le run-stop du côté du Colorado. Franchement, je suis beaucoup plus optimiste pour Denver sur ce match-là que pour Oakland. Et pourtant, je ne vois pas les Broncos comme un foudre de guerre cette année.
Eh bien, écoute, c'est mon pronostic YOLO. Je prends les Raiders. Je me dis, c'est la surprise de début d'année. Et honnêtement, Denver, c'est pas super fort non plus. Donc, ça peut passer. Donc, ça fait un Raiders, un Broncos. Voilà pour les pronostics de la première semaine. On passe au code de la semaine. Mmh. Les meilleures cotes de la semaine, c'est toujours avec notre partenaire Unibet. On reprend les bonnes habitudes. Grégory, tu as le droit à la première cote et tu as décidé de parier gros puisque tu paries contre une équipe finaliste de l'AFC.
Tout à fait. Donc, pronostic un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pas totalement. Les Jaguars à 2,30. Je pense que c'est une équipe qui est capable, de par l'homogénéité globale et surtout une défense qui, je pense, va retrouver son niveau après beaucoup de blessures l'année passée. C'est une équipe qui est capable de dérégler un petit peu Patrick Mahomes et de permettre d'aller chercher un succès un petit peu à l'arrache. Donc, c'est ce qui me rend un petit peu optimiste pour cette équipe de Jacksonville à 2,30 en plus.
Première cote un peu risquée, mais belle cote. Je vais enchaîner là-dessus avec les Falcons à 2,4 contre les Vikings. Alors, je sais que tu n'aimes pas pronostiquer les Falcons, donc je l'ai fait 2,4. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Je ne pense pas que les Falcons soient énormément inférieurs aux Vikings. Ils ont toujours de la puissance de feu. Ils ont toujours un ancien MVP. Il y a toujours quelques playmakers en défense. Donc, pour moi, Falcons à 2,4 contre Vikings, ça se tente. C'est une bonne cote dans un match qui me semble plus équilibré que la cote de 2,4 en tout cas. Puisse l'indiquer. La cote bonus, c'est les Steelers qui jouent les Patriots. Alors, évidemment, match difficile, c'est le champion en titre, mais on l'a dit, les Patriots, des fois, ont un peu de temps pour se mettre en marche. Ils n'ont pas forcément une énorme escouade de cibles. Et puis, il y a quand même une équipe de Pittsburgh avec un quarterback expérimenté, beaucoup de cibles et une défense très complète. Cote à 2,7, qui est quand même plutôt intéressante pour un match qui me semble un peu plus équilibré que ça. Le combiné va s'afficher sur votre écran et si je ne dis pas de bêtises, le combiné c'est 5€ pour 74,52€. Ça nous fait plutôt pas mal au niveau des cotes. Le YOLO est de retour et alors attention, je sors mon téléphone parce que
on a fait du lourd.
Là, on a fait du YOLO de compétition Grégory et je suis obligé de ressortir mon téléphone pour être sûr d'avoir tout. Hop là, évidemment, j'avais mis en mode avion. Hop là, voilà. Donc, le YOLO, il va s'afficher aussi. Comme ça, Camille, il va me filer un coup de main. Jaguars, Steelers, Atlanta. On avait trois bonnes cotes pour le début, donc on les a gardées, évidemment. Hop. Ah oui, bah voilà, je commence à avoir les notifications. Antonio Brown risque une suspension, etc. C'est la guerre. Donc, je vais sur l'appli Unibet. Hop, hop, hop. Et la NFL. Donc, nous avons derrière les Titans, les Bills et les Texans. Alors, il y a des bonnes cotes. Les Titans sont à 2,70 contre les Browns. Si vous ne croyez pas en la hype Cleveland, bah vous dites, moi, je mets les Titans.
Mais... C'est-à-dire que vous croyez en la hype Mariota. Ça, c'est autre chose.
Comment ?
C'est-à-dire que vous croyez en la hype Mariota, mais ça, c'est autre chose.
Non, Derrick Henry fait un gros match, tout ça. Voilà, on est comme ça. Donc, derrière, on a les Bills. Alors ça, parce que c'est la hype de Grégory, même s'il n'y croit pas cette semaine.
Ça, on peut y croire, ça.
C'est-à-dire qu'il croit à cette hype, mais pas cette semaine, mais ça passe.
C'est un match de division.
Cote à 2,10, c'est un match de division, ça passe. Et la dernière, ce sont les Texans. Alors, celle-là, elle est un peu plus osée, mais encore une fois, moi, je l'ai dit.
Celle qui va vous flinguer votre YOLO, les Texans.
Mais je te trouve un peu dur, tu vois.
Ouais,
je te trouve un peu dur. Il y a quand même un left tackle, il y a Deshaun Watson, il y a plus Mark Ingram de l'autre côté, il y a JJ Watt.
Non, mais après, c'est un YOLO.
C'est un YOLO,
ça se tente.
C'est un YOLO. Et je suis en train de chercher ma dernière cote que j'avais sous la main. Hop là. Bills Texan, et c'était quoi ? Jaguars Steelers
non,
Atlanta.
Il y avait 6, non ?
Oui, je sais, mais j'essaie de. Ah voilà, c'est Steelers que j'avais pas mis. Ah. Et je voulais vous la donner en direct. Et on va vous donner le total parce que là, c'est du YOLO de concours pour commencer l'année. C'est du YOLO de concours. On a mis 10€ sur le YOLO. Et là, bim, 2787,69€. Pas mal. Quelques mois de loyer.
Pas mal. Encore une fois, sur une première semaine, nous, on a notre opinion, hein, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de vérités qui sont contredites au lendemain de la première semaine. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas non plus en interne. Donc, sait-on jamais. C'est sûr que s'il y a bien une semaine où ça peut aller dans un autre sens, c'est celle-là.
Ah bah là, ouais. Là, on n'a pas encore beaucoup de certitudes. On peut vous le dire. On en parlait un peu avant l'émission. On se disait c'est toujours un peu périlleux pour nous ces premières émissions preview parce qu'on déjà on a peur de redire pas mal de choses de l'intersaison. Donc, il faut trouver des petits points où ça peut accrocher, où il peut se passer des choses. On espère qu'on l'a fait au mieux. En tout cas, c'est comme ça que se termine l'épisode 301 du podcast Jeune Actu. Ça fait bizarre dans les 301, en tout cas. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Cette année encore, on les remercie beaucoup, beaucoup de nous soutenir. N'hésitez pas donc à aller sur Unibet en passant par les liens qui sont sur le site ou sur nos réseaux sociaux. Plein de bons plans cette année. On les retrouvera d'ailleurs Unibet dans le fauteuil de dimanche avec un nouveau jeu pour vous faire gagner des sommes toujours plus élevées en paris gratuits. Merci beaucoup Grégory.
Toujours un plaisir.
Merci beaucoup Camille Sarabène à la technique. Vous retrouvez toute l'actualité de la NFL bien bien sûr sur tdactu.com, Twitter @tdactu, Facebook @touchdownactu et Instagram, non, Instagram @touchdownactu et Facebook @tdactu, je vais y arriver. @cieloradiosa pour Grégory sur Twitter, @camisaraben, @alainmatei. Vous avez tout, toute l'actu de la NFL, tdactu.com, et on vous souhaite évidemment un très très bon premier week-end de match. Oui, le fauteuil. Ah, pardon, il y a un petit bandeau. Camille, il a raison, j'oublie les bandeaux. Le fauteuil à 21h. À 21h.
Non, 21h.
Il est marqué à 21h parce que c'est celui du Super Bowl et que j'ai oublié de changer le liner. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est ma faute, vous voyez.
Je pense que les gens vont te snobber. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment.
C'est pas 21h si vous avez la vidéo, c'est 18h. Le fauteuil dimanche à 18h, on l'a dit, avec des nouveaux lots à gagner. Merci beaucoup. Très bon premier week-end de match à tous et à 18h pour le fauteuil dimanche sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.